écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Sophie Tussaud.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit à la une de l'actualité ce soir. La guerre est-elle déclarée entre le Sénat et l'exécutif ? En tous les cas, la majorité fulmine après la décision de la Chambre haute de saisir la justice dans l'affaire Benalla pour faux témoignage. Les 27 réunis à Bruxelles discutent d'un report du Brexit. La date du 30 juin proposée par Londres semble toutefois trop lointaine. Le recadrage des policiers par Christophe Castaner à 2 jours d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. Audience très attendue aujourd'hui des 2 pilotes d'Air Cocaïne devant la cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence. Et puis on est à J-1 du match des Bleus face à la Moldavie. Nous irons sur place pour prendre la température. Et puis comme tous les soirs, la bourse avec Claire Lemaître, l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir à 22h20 Florence Leville, directrice générale de MAPI, sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1.
C'est un nouveau coup de tonnerre dans l'affaire Benalla. Le bureau du Sénat a décidé de saisir la justice pour faux témoignage, un délit passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Sont visés Alexandre Benalla et Vincent Crase, mais également 3 hauts responsables de la présidence. Patrick Strauda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler et le général Lavergne, chef du groupe de sécurité du palais présidentiel. La majorité voit rouge et pour marquer son désaccord, fait extrêmement rare. Édouard Philippe a séché les questions au gouvernement au Sénat aujourd'hui. Pour Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, cette absence était légitime.
À un moment où le pays a besoin d'unité nationale, où il faut se retrousser les manches pour sortir le pays de la situation que nous connaissons depuis 4 mois, bien certains ont fait le choix de faire de la politique de bas niveau. Nous, on s'intéresse aux Français, aux problèmes des Français, à des solutions concrètes pour eux. Et je sais que sur les bancs du Sénat, il y a des sénateurs qui sont dans notre état d'esprit, et c'est tant mieux. Et puis il y en a quelques-uns qui veulent instrumentaliser une institution qui est importante. Elle représente les territoires de la République, c'est la Haute Assemblée, et bien qu'elle remplisse pleinement son rôle.
Patrick Kanner, sénateur PS, au contraire, estime que le Premier ministre n'aurait pas dû boycotter sa venue au Sénat.
Il s'agit là d'une première. Et ceux qui parlent de séparation des pouvoirs, là... ne respecte pas cette séparation. Le Premier ministre se doit d'être au banc, à la tête de ses ministres pour répondre aux questions des sénateurs. Donc il y a une grande fébrilité. Si l'exécutif pense que cela va, entre guillemets, intimider le travail du Sénat, il se trompe. Mais je regrette qu'on en arrive là. Simplement, ayant fait notre boulot, permettez-moi l'expression, demandant la justice maintenant de s'en saisir, je regrette une telle hystérisation d'un sujet qui ne le mériterait pas. Mais c'est finalement l'exécutif qui perd son sang-froid.
Des réactions recueillies pour Europe 1 par Adrien Beck. Les 27 discutent à Bruxelles de la réponse à donner à Theresa May. La première ministre britannique veut un report du Brexit au 30 juin. Un délai qui semble beaucoup trop long pour les États membres qui penchent davantage pour le 22 mai, soit avant les élections européennes prévues du 23 au 26 mai. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Les discussions prennent finalement beaucoup plus de temps que prévu.
Et oui, les 27 sont toujours en train de discuter du Brexit alors qu'ils devraient être en train de discuter des relations entre l'Union européenne et la Chine. Ils ont du mal à élaborer leurs réponses. Ils ont écouté Theresa May en milieu d'après-midi. Ça a duré 2 heures. Et selon plusieurs sources, la Première ministre ne les a pas du tout convaincus. Elle ne leur a pas présenté de stratégie pour sortir de l'impasse. Elle n'a pas de plan B si son plan A échoue. Et son plan A, c'est toujours de faire adopter l'accord négocié avec les Européens par le Parlement britannique. Elle n'a pas voulu dire ce qu'elle ferait si cela échoue encore une fois. Ensuite, Theresa May est sortie de la salle. Et là, nous dit-on, tous les chefs d'État et de gouvernement ont voulu prendre la parole. Ils savent que l'heure est grave, que la date prévue pour le Brexit est dans 8 jours. Certains sont prêts à aller jusqu'au bout de l'épreuve de force, d'autres sont plus prudents. Du coup, ils n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur la durée d'un éventuel report, ni sur ses conditions. Les discussions continuent en ce moment même.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Le Conseil constitutionnel valide ce soir l'essentiel de la réforme de la justice mais retoque les dispositions qui visaient à renforcer les pouvoirs du parquet au détriment du juge. Autre décision des sages ce soir, ils valident les tests osseux pour déterminer l'âge des jeunes migrants même s'ils reconnaissent une marge d'erreur significative. Après avoir intronisé ce matin le nouveau préfet de police de Paris, Christophe Castaner a reçu les syndicats de police ce soir, durant plus de 2 heures. Fermeté du ministre de l'Intérieur à l'approche d'une nouvelle journée de manifestation des Gilets jaunes samedi. Si certaines mesures annoncées par le Premier ministre, comme l'usage de drones et les produits marquants pour repérer les casseurs, ne seront pas mises en place ce samedi, en revanche, les policiers mobilisés auront plus d'autonomie sur le terrain. Écoutez Fabien Van Elmerick, secrétaire général du syndicat Alliance.
Il y a eu un discours d'extrême fermeté. Les discours, évidemment, sont plaisants à écouter. Maintenant, nous, on attend les actes. Il y a des directives de prise. Il y a beaucoup plus de mobilité, par exemple, pour nos collègues qui vont faire du maintien de l'ordre. Heureusement, on va remplacer les collègues qui font les plantes vertes aujourd'hui par des sentinelles, ce qui permettra de recentrer le policier sur son cœur de métier et enfin faire du vrai boulot de flic. Ça, c'est pour dès samedi. Par contre, toutes les autres mesures, il faudra attendre, notamment les jets de peinture et autres. Le plus important, c'est redonner de l'initiative policière et s'adapter à une situation. On nous parle de commandement unique, par exemple, c'est-à-dire un commandement pour l'ensemble des directions et l'ensemble des forces de police sur la manifestation. Tout ça va dans le bon sens. On demande à voir et dès samedi, on appréciera.
Fabien Van Elmerick, secrétaire général du syndicat Alliance au micro Europe 1 d'Alain Accot. Et puis ce chiffre dévoilé ce matin par Europe 1, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, ce sont 760 agences bancaires qui ont été dégradées durant les manifestations. À suivre dans le journal de la nuit, le procès Air Cocaïne et les Bleus en Moldavie. On se retrouve dans un très court instant.
Europe 1. Aujourd'hui, je suis allé faire le plein. Mais si je vous dis pas un plein de quoi, là, c'est le vide. Un plein de course, utile. Un plein d'air pur, bucolique. Ou un plein d'essence. Moins poétique, hein.
Avec Nissan, plus besoin de passer à la pompe pour faire le plein. La Nissan Leaf 100% électrique d'occasion est à seulement 99€ par mois. Et jusqu'au 31 mars, pendant la quinzaine de l'occasion, découvrez d'autres offres exceptionnelles.
Nissan, innovez autrement.
Leaf Visia 24 kWh, occasion 3 ans, LLD premier loyer 5 000€, puis 48 loyers 99€ si accordiac. Détail Nissan.fr.
Le journal de la nuit avec Sophie Tussaud sur Europe 1.
L'audience était très attendue aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence. Un peu plus d'un mois après le début du procès d'Air Cocaïne, la justice a entendu Bruno Odos et Pascal Forêt, les deux pilotes du Falcon 50 interceptés il y a 6 ans en République dominicaine avec 700 kilos de cocaïne à son bord. Nathalie Chevance, vous suivez ce procès pour Europe 1. Depuis le soir de leur arrestation, les deux pilotes ne changent pas leur ligne de défense. Ils affirment n'avoir jamais été complices d'un quelconque trafic de drogue.
Oui, et c'est avec une apparente décontraction que les deux pilotes s'expriment à la barre, répondant parfois d'une seule voix aux questions du président. Deux hommes plutôt souriants, en chemise, les tempes grisonnantes, que leur avocat Maître Dupont-Moretti n'hésite pas à appeler les innocents. De drôles de trafiquants, affirme-t-il, qui au moment de la livraison des 26 valises chargées de cocaïne auraient déposé 2 000 € sur un livret A. Mais ces peanuts, savez-vous quelle est la commission pour ce type d'affaires? Entre 10 et 15% de la valeur de la marchandise, là pour 700 kilos de cocaïne, on devrait parler de 25 millions d'euros, martèle le ténor du barreau. Et depuis le début, Bruno Odos et Pascal Forêt ne varient pas d'un iota, pas de contradiction dans leur explication. Les recherches sur Google, trafic de drogue, pilote en prison, simple curiosité. Ils ne sont pas stupides, tonnes Dupont-Moretti, ce sont des militaires, anciens pilotes de chasse. Ils savent très bien que les ordinateurs, les téléphones peuvent parler. Quant aux 26 valises, oui, ce n'était pas adapté pour deux passagers dans un Falcon. Forêt et Odos en conviennent, mais disent ce n'était pas notre rôle de les ouvrir. Dans l'aviation d'affaires, le client est roi, on ne pose pas de questions. L'accusation, elle, maintient que les deux prévenus ne pouvaient pas ignorer ce qu'ils transportaient. Verdict le 5 avril.
Nathalie Chevance, Aix-en-Provence, pour Europe 1. Au Brésil, l'arrestation de Michel Temer. Le parquet soupçonne l'ancien président d'être le chef d'une organisation criminelle. Il est visé par plusieurs enquêtes pour corruption. Les inégalités numériques en France. Près de 7 millions de personnes n'ont pas accès à Internet dans le pays. Le gouvernement avait pourtant promis le très haut débit disponible pour tous en 2022, mais il ne pourrait en réalité arriver qu'en 2029. C'est ce que dévoile une étude du FC que choisir. Écoutez Antoine Autier, responsable adjoint au service des études.
Il y a des gros impacts. Dès que vous êtes deux à utiliser, bah on voit que ça rame. Là où ceux qui ont un bon débit peuvent télécharger la page web en une seconde, deux secondes, bah vous devez attendre 8, 10 secondes. Donc on voit bien que dans l'expérience au quotidien, c'est quand même très dommageable. D'autant plus puisque c'est surtout présent dans les zones rurales. C'est-à-dire des zones qui sont déjà victimes de la fracture sanitaire. Bah on leur dit, bah on va développer la télémédecine. Très bien, mais pour ça, il faut avoir un bon débit. On voit le recul des services publics. On dit aux consommateurs, vous inquiétez pas parce que d'ici 2022, vous aurez la fibre optique. Le problème, c'est que quand on regarde les déploiements actuels, on se rend compte que l'objectif ne sera pas atteint en 2022, mais plutôt à la fin des années 2020. Et donc, il y a vraiment des actions que l'État doit entreprendre pour permettre à tous les consommateurs, rapidement, d'avoir accès à un Internet acceptable.
Antoine Autier répondait à Sébastien Krebs pour Europe 1. Les sports, le football, et on est à J-1 de Moldavie-France dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020. Cyril Delamorinerie, vous êtes sur place pour Europe 1. Alors si la France est favorite, on est loin des fastes de la Coupe du Monde de cet été.
Oui, on est très loin des grands stades de Russie, de la Coupe du Monde. La conférence de presse, par exemple, s'est déroulée dans un gymnase non chauffé à quelques encablures d'une petite enceinte de 10 500 places, le stade Zimbru de Chișinău, capitale de la jeune République moldave, un pays que la France n'a jamais rencontré. Alors évidemment, les Bleus champions du monde sont les grands favoris, mais gare à prendre ces Moldaves ultra motivés à la légère, rappelle le sélectionneur Didier Deschamps.
Beaucoup de respect par rapport, même si le stade est plus petit, il sera plein, il y aura un public qui sera derrière eux, donc ça ne doit pas amener à de la déconcentration, bien au contraire.
C'est pourquoi les Bleus se sont montrés tout à l'heure à l'entraînement très concentrés. Les 17 champions du monde présents doivent transmettre leur expérience aux autres. Attention, car ce déplacement en Moldavie, a rappelé tout à l'heure le capitaine et champion du monde Hugo Lloris, a tout d'un match piège.
Cyril Delamorinerie en Moldavie pour Europe 1. Et notez que Moldavie-France, c'est donc demain à 20h45. Il est tout beau, tout neuf et se trouve au cœur des Serres d'Auteuil. Le tout nouveau cours de Roland-Garros, baptisé Simone Mathieu, du nom de cette championne française des années 30. Il a été inauguré aujourd'hui par Guy Forget, le directeur de Roland-Garros.
C'était un travail de longue haleine avec beaucoup de doutes, de frustrations aussi parfois, mais c'est un long combat et enfin ce rêve se réalise aujourd'hui avec ce cours entouré de serres qui est absolument somptueux. C'est vrai que jouer comme ça entouré de verdure sur un cours de cette capacité, on ne l'a jamais vu. Alors il y en a d'autres qui ont des cadres tout aussi remarquables. Je pense au roi de Monte-Carlo qui est au bord de la Méditerranée, un site extraordinaire. Mais là, je crois qu'avec ces serres qui entourent ce cours Simone Mathieu, ça, on verra ça nulle part ailleurs. Donc voilà, on est tous très très heureux, on est très fiers et on a hâte de voir les premiers coups de raquette sur ce cours Simone Mathieu.
Guy Forget au micro Europe 1 de Corinne Boulou. Et Roland-Garros se tiendra cette année du 26 mai au 9 juin. Le temps de demain, Elena Morna, il va faire encore plus beau et plus doux.
Et comme aujourd'hui, Sophie, on va démarrer la journée au frais avec quelques gelées dans les zones où le ciel est clair, à Montluçon et au Serre par exemple, avec moins 3 degrés. Agen ou Épinal, moins 2 degrés. Angoulême et Mulhouse, moins 1 degré. Alors ce sera toujours plus doux sur les côtes ou sous les nuages avec 7 degrés à Brest, car des nuages, vous savez, les stratus du matin où la brume et le brouillard feront encore l'actu. Météo demain matin, de la Bretagne jusqu'au Pays de la Loire, Normandie et Hauts-de-France, avec parfois une visibilité réduite, hein, soyez prudents. Alors avant midi, les nuages disparaîtront, sauf sur le littoral, entre la côte Fleurie et la côte d'Opale. C'est vrai que c'est tellement beau dans ces régions qu'on a toujours envie d'y prolonger son séjour. Alors vous aurez quand même de belles éclaircies. Hein. Ailleurs, c'est simple, c'est du bleu, ciel bleu, et du vent qui mollit sur la Corse. Les températures, elles, ne mollissent pas du tout demain après-midi, avec 11 à 24 degrés de Boulogne-sur-Mer à Nîmes, 15 à Brest et Moutes, 17 à Évreux, à Nantes et Lille, 18 à Paris, Bourges et Strasbourg, 21 à Bordeaux, Toulouse et Lyon, 22 pour Marseille. Votre week-end sera un tout petit peu moins chaud et quelques nuages s'inviteront sur la moitié nord dimanche.
Merci Elena Morna.
Europe 1.
Restez avec nous à suivre dans votre journal de la nuit, la bourse avec Claire Lemaître et l'invité éco d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir Florence Level, directrice générale de MAPI. On se retrouve tout de suite.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Sophie Tussaud sur Europe 1.
Et il est 22h14 sur Europe 1. On fait un point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Sophie.
Alors Claire, ce soir, Wall Street reprend le chemin de la hausse.
Oui, c'était hésitant hier après le verdict de la Fed, mais cette fois, les indices grimpent, plus 0,84% pour le Dow Jones. On est à 25 963 points, plus 1,42% pour le Nasdaq, 7 839 points. Les investisseurs saluent donc la souplesse de la Banque centrale américaine qui a promis hier une politique de taux accommodante. Ce soir, c'est le titre Apple qui mène la danse avec un bond de 3,7%. Le géant des smartphones profite de plusieurs avis positifs d'analystes. Ils attendent de pied ferme le lancement de son service de vidéo en ligne. Ce sera lundi.
Alors aujourd'hui, gros événement à Wall Street et c'est Levi's qui a fait son grand retour.
Oui, un retour en fanfare pour le fabricant de jeans. Le titre Levi-Strauss flambe de plus de 30% pour cette première journée en bourse. Ça donne une valorisation proche ce soir de 9 milliards de dollars. Retour gagnant donc pour Levi's qui avait quitté la cote en 1985. Du côté des devises, l'euro repart en baisse, moins 0,4%. Il s'échange contre 1,1366 $. Et puis la livre sterling chute à Londres, moins 0,7%, 1,31 $. La livre qui subit de plein fouet le flou autour du Brexit ce soir et les difficultés du Conseil européen à trouver une nouvelle date butoir.
Alors ça s'est bien passé à Wall Street ce soir. En revanche, aujourd'hui à Paris, c'était pas terrible. Hein, et la séance a été plutôt hésitante.
Oui, avec des investisseurs très indécis et finalement un CAC 40 qui cède 0,07%, 5 379 points. Le CAC a été freiné par les valeurs bancaires, réaction aux annonces de la Fed qui ne prévoit donc plus de hausse de taux cette année. Le problème, c'est que les taux d'intérêt bas, ils pénalisent les marges des banques. Du coup, BNP Paribas et Société Générale perdent plus de 2%. Et puis la dégringolade du jour à Paris, elle est pour Essilor Luxottica. Le titre plonge de 6,5% avec des inquiétudes concernant la guerre de gouvernance entre le groupe français Essilor d'un côté et l'italien Luxottica de l'autre. Les deux ont fusionné l'année dernière.
ST Microelectronics, en revanche, a réalisé une belle performance aujourd'hui.
Oui, le fabricant de semi-conducteurs progresse dans le sillage de Micron Technologies qui s'est envolé à Wall Street après des résultats financiers solides, plus 4,4% donc pour ST Micro. Et puis en deuxième position sur le CAC 40, on trouve Bouygues, plus 1,5%. Dopé par une note positive d'analyste. Ailleurs, en Europe, les marchés ont clôturé en ordre dispersé. Londres bondit de 0,9% dopé par la chute de la livre sterling. Francfort et Madrid reculent de 0,5%, Milan plus 0,2%. Bruxelles est stable et le CAC 40, 7,01%, 5 379 points.
Merci Claire Lemaitre de Boursier.com. On vous retrouve demain, demain soir pour demain. La Bourse sur Europe 1. À demain. Il est 22h17, c'est l'heure du rendez-vous éco avec Emmanuel Duteil et son invité. Emmanuel, vous recevez ce soir Florence Level, directrice générale de MAPI.
Bonsoir Florence Level.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de MAPI. Alors est-ce qu'il faut encore présenter MAPI ? 11 millions de visiteurs uniques chaque mois, c'est bien évidemment une application qui nous permet de nous déplacer. On l'a tous utilisée avant même que nos smartphones existent. On peut presque dire qu'en France, vous faites partie des pionniers dans ce secteur. Moi, il y a un chiffre qui m'a épaté quand j'ai préparé cette interview. J'ai lu qu'il y avait 13 modes de transport différents proposés sur MAPI. J'ai eu du mal à arriver jusqu'au 13. C'est quoi tous ces 13 ?
Il y a une spécificité sur MAPI, c'est que nous adressons tout type de distance. Donc dans les 13 modes de transport, il y a aussi bien les transports intra-urbains, la trottinette, le vélo libre-service, tout mode de partage du véhicule possible, mais aussi les longues distances, puisqu'on a les autocars, la voiture, on a même l'avion, ce qu'on n'avait pas à l'époque que vous évoquiez tout à l'heure. Donc au total, on en a bien 13 et on a même 25 partenaires sur MAPI qui viennent alimenter nos services pour pouvoir offrir un maximum d'informations à nos utilisateurs.
Alors si j'ai commencé par ça, c'était totalement voulu hein, parce que ce à quoi ressemble aujourd'hui MAPI, c'est plus du tout l'itinéraire en voiture pour faire le Paris-Nantes et savoir combien de temps on va mettre et combien vont nous coûter les péages que l'on va payer sur les autoroutes. L'idée, c'est que vraiment vous soyez notre assistant personnel de la mobilité. Donc, ça va aussi bien de la trottinette que vous citiez jusqu'à la voiture qu'on pourrait prendre une fois qu'on serait arrivé à la gare. C'est ça aujourd'hui ce que vous voulez être. C'est plus du tout une application d'itinéraire. Bah, un peu ça, mais surtout le reste.
Alors, effectivement, on capitalise sur ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire les itinéraires que nous calculons chez nous. Mais bien sûr, ce qu'on a développé ces dernières années, c'est d'élargir énormément notre périmètre pour permettre à des utilisateurs de pouvoir avoir l'ensemble des informations disponibles sur un territoire. À Paris, aujourd'hui, il y a 50 solutions de transport. Impossible, bien entendu, pour un utilisateur de savoir à un temps donné quel est l'ensemble de l'offre qui est devant lui. Et donc, notre métier, c'est bien celui-là. C'est d'aller agréger un maximum d'informations pour pouvoir lui dire bah, quand tu fais un trajet point A, point B, voici toute la liste des options qui s'offrent à toi et de les classer selon deux critères, le prix et le temps.
Alors moi, j'ai fait un petit sondage qui vaut ce qui vaut. C'était dans la rédaction d'Europe 1. J'ai dit, est-ce que vous utilisez Mappy pour faire vos trajets justement au-delà de l'itinéraire? Pas beaucoup m'ont dit oui.
Est-ce
vous n'êtes pas encore assez connu là-dessus? Alors, c'est votre défi malgré tout.
C'est un énorme défi aujourd'hui. On reste la force de Mappy, c'est sa notoriété. Vous le disiez, peu de Français ne le savent pas, ne connaissent pas Mappy. Pour autant, certains ont encore cette image un peu historique de notre service, qui pourtant a considérablement changé ces trois dernières années. Alors, dans les enjeux de Mappy demain, il y a effectivement le fait de faire savoir à l'ensemble de vos auditeurs et des autres que Mappy a complètement changé, que l'on est devenu cet assistant multimodal, c'est-à-dire tous ces différents modes disponibles sur l'ensemble du territoire français.
Ce qu'il y a, c'est que vous êtes nombreux maintenant sur ce marché et votre plus gros concurrent, c'est la SNCF, puisqu'on a reçu le patron de Oui SNCF il y a de cela quelques mois, qui est venu nous dire « je suis en train de préparer la plus grosse appli quasiment au monde où il y aura tous les moyens de transport ». Vous faites la même chose, mais est-ce que vous le faites en aussi bien ou en mieux ?
Alors, il y a deux défis. Il y a un défi, effectivement, qui est d'avoir... Enfin, il y a trois défis, même. Et le premier, c'est d'avoir ce savoir-faire pour calculer l'ensemble de ces itinéraires. Vous évoquiez la SNCF, vous évoquiez le Babacar. Ça veut dire qu'il faut maîtriser la donnée voiture, la donnée transport en commun, la donnée piéton, vélo. Donc ça, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait depuis des années. Et puis, demain, c'est non seulement de connecter ces données, mais en plus de les mélanger entre elles. Mmh. C'est-à-dire non pas seulement de se limiter à... ton trajet en voiture, le plus court, le plus rapide, c'est ça. C'est un peu de voiture, un peu de vélo, avec un parking au milieu. Et idéalement, en ayant la possibilité de réserver et d'acheter les
mais
billets
qui vont bien.
Mais vous
pensez que vous pouvez être concurrentiel par rapport à la SNCF et toute la zone de données qu'elle aussi peut avoir?
Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, la SNCF est notre partenaire au même titre que notre concurrent. Mmh. Ceci est un écosystème. Nous sommes tous à la fois amis et concurrents
et
dans cette
équipe. Et en même temps, vous êtes les meilleurs amis.
Nous sommes les meilleurs amis du monde.
On va le dire comme ça. Ce qui est aussi intéressant dans votre développement, c'est que vous voulez aussi qu'on puisse finalement, quitte à savoir comment y aller, bah c'est bien si on peut acheter notre billet également directement sur Mappy. J'ai lu pas mal de papiers sur vous, vous annoncez ça, mais jamais vous dites c'est pour quand. Alors c'est pour quand? Vous allez le dire ce soir.
Alors ça va commencer assez rapidement, mais je ne vous donnerai pas de date aujourd'hui. Mais ça va commencer assez
rapidement.
Assez rapidement,
ça veut dire quoi? On compte en mois?
On compte en mois.
D'ici à la fin de l'année 2019,
d'ici la fin
de
l'année, il y aura du paiement sur Mappy et il y aura de la possibilité de réserver sur Mappy. Ça ne change pas énormément les choses à date, puisqu'on a déjà, avec les partenaires que j'évoquais tout à l'heure, la possibilité de réserver et de renvoyer vers l'application de notre partenaire. C'est ce qu'on fait sur les taxis, les VTC ou même on évoquait la SNCF. Donc l'idée, c'est par contre de le rapatrier dans Mappy, à savoir de fluidifier, de simplifier les trajets pour nos utilisateurs.
Ça change quand même tout pour vous. Ça fait que les utilisateurs restent sur votre application et que vous êtes le seul mode que l'on va utiliser aussi bien pour payer que pour savoir où on va. Pour vous, c'est capital. Vous ne pouvez pas dire que ça ne change pas grand-chose.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les négociations, elles sont déjà en cours. Elles sont déjà là. On est déjà en train de travailler sur ces sujets. Après, effectivement, la date finale est encore en cours de négociation.
Quel est le plus dur à faire pour que ça fonctionne? C'est justement de nouer les partenariats dont vous étiez en train de parler, ou il y a une question purement technique que c'est vraiment compliqué à faire pour que ce soit sécurisé, pour que tout fonctionne bien, qu'on soit sûr d'avoir toutes les bonnes données au bon moment?
Alors il y a les deux. Il y a effectivement le fait de convaincre les partenaires que payer dans Mappy et non pas seulement dans leur application peut être intéressant pour eux. C'est une part non négligeable, je ne les cacherai pas. L'autre partie, effectivement, c'est que, comme vous le disiez, on a énormément de partenaires. Donc ça suppose de s'interfacer avec énormément de gens et énormément de systèmes. Et donc il y a aussi une problématique technique qui est loin d'être négligeable et loin d'être... facile à adresser. Donc c'est la raison aussi pour laquelle on prend du temps. Mais il y a pas mal de solutions sur le marché.
Et pour vous, l'intérêt, c'est que vous arrivez à monétiser tout ça, parce que vous étiez déjà retourné du côté de chez Mappy en essayant de mettre un peu plus de pub, en essayant de mettre pas mal de choses que l'on pouvait acheter déjà directement, sachant que la boulangerie était là, etc., etc. Ce qui était pour vous très intéressant. Mais l'idée, là aussi, c'est de rendre tout ça rentable, parce que c'est quand même le grand, grand défi.
Alors, c'est de rendre tout ça rentable, et c'est effectivement... On continuera à avoir notre dimension publicitaire, puisque la recherche locale et le déplacement sont quand même des choses qui sont totalement affinitaires. On se déplace en général pour faire quelque chose, et donc tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur la recherche locale est complètement, on va rester au cœur de notre expérience. Par contre, effectivement, comme vous le disiez, le fait de pouvoir intégrer le paiement dans Mappy demain va nous permettre d'avoir une capitalisation, je veux dire, sur ces partenariats qui soit plus directe qu'elle ne l'est aujourd'hui. c'est certain.
Dans un portrait que j'ai lu de vous, vous disiez « Avec tous les voyages que j'ai faits, il était inévitable que je me retrouve dans le secteur de la mobilité. » Quand vous voyagez, est-ce que vous vous dites « Bon sang, qu'est-ce qu'on est en retard quand on va par rapport à Singapour, quand on va par rapport à des pays comme la Corée du Sud, où tout ça, ça existe déjà depuis belle lurette, on peut acheter son ticket ?» Vous dites « Mince, j'ai trop voyagé, j'ai pas assez travaillé en France.
» Alors, c'est vrai que sur un certain nombre de pays, on est un petit peu en retard. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de territoires, notamment, où il suffit d'avoir une carte bleue pour pouvoir prendre un ticket de métro et voyager sans avoir à se poser plus de questions que ça. Il y a quand même un certain nombre de territoires aussi où on est plus en retard que nous. Donc, je pense qu'on les rattrape. Voilà, on va y œuvrer très, très rapidement.
Eh bien, un grand merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Florence Level, qui est donc la directrice générale de Mappy, était notre invitée. On se retrouve demain, 22h20.
C'était l'invité éco d'Emmanuel Duteil. Vous pouvez bien sûr réécouter cette interview sur le site d'Europe 1, europe1.fr. À la une de la presse demain, l'affaire Benalla, le Sénat va au clash avec Macron, titre l'Opinion. Le Sénat qui a choisi ce jeudi de saisir la justice non seulement du cas de l'ancien chargé de mission de l'Élysée, Alexandre Benalla, mais aussi de ceux de trois hauts responsables de la présidence. L'affaire Benalla, il en est également en question en une du Figaro. Affaire Benalla, le Sénat signale à la justice trois collaborateurs de l'Élysée. Le quotidien qui titre également sur Christophe Castaner. Christophe Castaner affaibli, durci les règles du maintien de l'ordre, confronté à la défiance de l'opinion. Le ministre de l'Intérieur a donné des instructions très fermes au nouveau patron de la police parisienne qui a été intronisé ce matin. Le Figaro Économie, quant à lui, se penche sur les troubles en Algérie qui inquiètent les entreprises. Alors que la contestation s'étend contre le pouvoir en place, les investissements dans le pays sont à l'arrêt. Pour les Échos, il est question d'Emmanuel Macron qui joue la carte de l'Europe face à la Chine. La France accueille Xi Jinping, le président chinois, ce dimanche. Il est également question à la une des Échos du Brexit. Une dernière chance donnée au Royaume-Uni. L'Europe est prête à un court délai en échange d'un vote positif de Westminster sur l'accord de retrait. La violence à la une de Libération, le SOS des pompiers, incendie meurtrier, fausses urgences, mouvement des gilets jaunes. Dans le quotidien, le commandant de la brigade de Paris décrit une profession fragilisée car sursollicité et de plus en plus agressé. Autre violence, celle sur les réseaux sociaux. Pour 20 minutes, une haine sans limite. Alors que YouTube, Facebook et Twitter sont capables de lutter contre la propagande terroriste islamiste, les réseaux sociaux sont moins bien armés face au contenu raciste, islamophobe ou suprémaciste. La Croix titre sur le goût retrouvé du débat, occulté par la violence des casseurs. L'aspiration à des formes de souveraineté populaire rapproche les gilets jaunes des participants au grand débat national. Et puis le Centre Presse et la Nouvelle République titrent quant à eux sur un événement musical, sur le Festival des Heures Vagabondes, la 16e édition qui se déroulera entre le 5 juillet et le 9 août. 13 concerts avec entre autres Marc Lavoine, Cœur de Pirate et Alpha Blondie. Il est 22h29 sur Europe 1. C'est l'heure de la libre antenne. Bonsoir Sabine Philippe. Sabrina Philippe, excusez-moi.
Bonsoir Sophie.
Comment allez-vous ?
Très très bien, merci.
On rappelle le numéro pour que les auditeurs puissent vous joindre, le 3921. Et puis bien nous, on se retrouve dans une demi-heure pour les infos.
Exactement, à tout à l'heure Sophie.
À tout à l'heure, merci. Sabrina.